battu le Grand Real en demi-finale et vient de battre le Benetton Trévise. Et c'est Richard Dacoury, 16 ans de fidélité à Limoges, qui ce soir est récompensé à l'issue d'une carrière exemplaire.
Mai 1993, tout le monde se souvient du sacre de l'Olympique de Marseille, vainqueur de la Ligue des champions de football. Pourtant, quelques jours plus tôt, un club de basket allait marquer à jamais l'histoire du sport français en devenant le premier à remporter un titre de champion d'Europe tout sport confondu. Cette équipe, c'est le CSP Limoges.
Le cerf au blanc est magique, c'est la plus belle salle de France.
Le CSP est le plus grand club d'Europe.
C'est l'une des plus belles histoires de l'histoire du basket français, même du sport tout court. C'est une histoire exceptionnelle.
Le CSP.
Je ne sais pas. Le cercle, est-ce que je suis à l'antenne? Il y a pas de... Seb fait des grands gestes, tu n'as pas de retour dans le casque. Est-ce que ça va mieux?
Oui.
Parfait. Un débat un petit peu chaotique, comme à notre habitude. Bonsoir tout le monde. Mardi soir, 18h sur Bob FM. C'est donc Le Cercle. L'émission par et pour les supporters du Limoges CSP, des supporters complètement euphoriques parce que le CSP est sur 3 victoires de suite avec 100 points marqués, des écarts de 40, 50 points. Alors, on va, autant le dire tout de suite, on va être champion.
Oui, oui. Tu vas voir dans 15 jours Monaco. Bah.
C'est possible. Enfin bon,
en tout cas, c'est tout ce qu'on peut espérer.
Ouais. Ne boudons pas notre plaisir et savourons un petit peu.
Pour une fois
qu'on a 3 victoires de suite, c'est quand même assez rare
oui,
ces derniers temps.
Oui, ça faisait un moment. Ouais.
Effectivement. Voilà, donc ce soir, une émission un petit peu intimiste puisqu'on n'est que deux.
Ben oui.
Il y a Grand Seb qui est là.
Salut.
Ça va, en pleine forme?
Oui, ça va, et toi?
Après une belle victoire... Oui. Après un match comme samedi, on peut être que en forme. On salue quand même les copains qui sont pas là. Duarte qui est bloqué au travail et puis Patrick qui est accaparé par un média plus important que nous. Voilà.
Oh là là.
Il doit expliquer qu'il est supporter des Lambernais, ça va certainement
trouver quelques excuses. Fumier ça.
Donc on salue les copains et nous, bon, on va pas perdre plus de temps puisqu'on a quand même pas mal de choses à dire.
Ouais, il y a des choses.
Puisque par ma faute, j'en m'en excuse, on n'a pas pu faire émission il y a 15 jours. Pour des raisons bien indépendantes de ma volonté. Donc du coup, on a quand même 4 matchs à voir. Et puis, on va parler un petit peu des news, de ce qui peut se passer dans le club aussi. On va commencer, on a souvent l'habitude de dire du mal des gens. Là, on va dire du bien de quelqu'un. Parce que,
oui.
Comment dire du mal? On va dire du bien de Nicolas Lang. Parce que d'ailleurs, je crois bien, en y réfléchissant, on n'avait même pas mentionné dans les émissions précédentes que Nicolas Lang était sélectionné équipe de France. Je ne crois pas qu'on en ait parlé.
Non, je ne pense pas.
On va le dire maintenant.
On va pas souligner le truc.
Nicolas Lang a donc été appelé pour la fenêtre internationale pour disputer les deux matchs avec l'équipe de France. C'était sa deuxième fois qu'il était appelé,
je crois. Il avait deux fois.
Donc là, il avait deux matchs contre le Monténégro à Pau et contre la Hongrie, en Hongrie, dans une ville dont j'ai oublié le nom. Nicolas Lang, fidèle à lui-même, il a été plutôt bon. Une grosse frayeur, quand même,
pour tous les supporters du CSP. On l'a vu sortir en boiteillant.
Il s'est fait une entorse à la premier quart-temps, si je ne dis pas de bêtises, contre le Monténégro. Et puis, il est revenu en toute fin de troisième quart-temps.
Et puis, vous mettez 12 points.
Et puis, il a marqué 12 points dans les 12 dernières minutes. Le facteur X, quoi, c'est lui qui a remis l'équipe de France. Ouais, parce que si on
il a été souligné par ses coéquipiers.
Parce que quand même, je ne sais pas si tu as regardé ce match, mais c'était folichon quand même la première mi-temps.
Ouais.
Le match globalement dans son ensemble. L'équipe de France était quand même pas mal bousculée par le Monténégro. Et on se retrouvait à être à moins 10 à la fin du troisième quart-temps, au moment où Nicolas Lang rentre. Et puis, c'est clairement Nicolas Lang qui remet la France dans le droit chemin avec 3 paniers à 3 points de suite. Après, l'écart donc, a été comblé tout de suite dès le début du quatrième. Et puis, par contre, le money time, la fin de match, maîtrisé de façon impeccable par les Français, qui finalement s'impose de 6 ou 7 points, je crois, contre le Monténégro. Et le second match en Hongrie n'a été qu'une formalité pour la France, qui a gagné, je crois, de 35 points ou quelque chose comme ça. Il n'y a jamais vraiment eu de match. Et Nico a marqué 8 points, je crois. Donc 12 points le premier match, 8 le second, avec un temps de jeu de 15-20 minutes. Voilà. Je pense qu'effectivement, Écolé et les coéquipiers ont dit des choses bien de lui. Mais bon, ça, c'est. Comment dire du mal de Nicolas Lang?
On s'en fout. Ouais, voilà, c'est ça.
Donc voilà, moi, content pour lui parce que cette sélection, quand même, c'était amplement mérité, quoi.
Oui. Ah oui, tout à fait, par rapport à déjà ce qu'il a fait l'année dernière et puis ce qu'il recommence un peu à faire là en ce début, milieu de saison. Mm-hmm. Il recommence à rechouper un peu des shoots et de l'importance offensive. C'est cool.
Il est sur une saison et demie absolument incroyable, quoi.
Tous les
matchs, il plante ses 15-20 points, quoi. C'est incroyable.
Pour un GFL, c'est cool.
Et puis
avec un pourcentage de réussite qui est quand même assez important, quoi.
Carrément.
Donc, c'est terrible. Tant mieux pour nous.
Ouais, bah oui, c'est sûr, tant mieux pour nous. C'est vrai que ça fait plaisir pour lui. C'est un joueur qui était dans les clubs où il est passé avant. Alors, Chalon-sur-Saône, il était un peu jeune, mais après, il a fait quoi? Il a fait Levallois, Villeurbanne et Strasbourg.
Et Strasbourg, ouais.
Il était surtout habitué à sortir du banc, à être un sixième homme de luxe. D'ailleurs, je crois qu'il a gagné plusieurs fois le titre de meilleur sixième homme du championnat. Mais là, c'est vrai qu'à Limoges, il est arrivé. C'est la première fois, je pense, qu'on lui a donné un statut de cadre et de leader. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il assume parfaitement.
Oh bah, il assume, c'est clair.
Avec une importance même son... indéniable, les capitaines, des stats incroyables,
voilà,
et de la régularité.
C'est là-dessus,
quoi,
que je voulais aller. Son rôle de joueur majeur du 5 dès le départ, et il le fait très bien et c'est mérité. Et là où on avait un peu un doute l'année dernière et en début de saison, bon, l'année dernière il était co-capitaine, donc voilà. Mais là, capitaine tout seul, et ben moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais il va chercher les mecs sur le terrain pour les temps morts. Il les motive, il leur parle, il les regroupe au lancer quand il va faire des petites réunions ponctuelles pour se redire des choses. De ce qu'on peut voir,
il est dans son rôle.
C'est pas mal, ouais, clairement.
Bien. Carrément, je suis entièrement d'accord. Une autre petite chose, tant qu'on est toujours sur Nicolas Lang, il était l'invité cette semaine ou la semaine dernière, non c'est cette semaine, ouais, de l'émission du populaire, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est CSP Time, oui c'est ça, CSP Time, il était donc l'invité avec Jean-Christophe Bourdin et Mathieu Marot, et donc bah, une interview, il est toujours intéressant à écouter, Nicolas Lang, moi j'aime beaucoup... Sa façon d'être et quand il répond aux questions. Et donc, bah, la question qui nous intéresse tous, hein, et on a une chance de le garder. Il a précisé qu'il avait encore un an de contrat avec le CSP, que sa famille et lui se plaisaient énormément à Limoges, mais qu'on était dans le sport professionnel et que bien sûr, on pouvait...
On ne sait jamais si ce qui peut arriver. Si un club turc ou je ne sais pas quoi qui arrive avec évidemment, une enveloppe trois fois le salaire de Limoges, forcément, il n'est pas que con.
Évidemment, s'il y a une offre qu'il ne peut pas refuser qui arrive... Mais je pense qu'il a, voilà, il a quoi, 32 ans, quelque chose comme ça, Nicolas Lang. Maintenant, je pense qu'il a laissé entendre que sa priorité, c'était que sa famille se sente bien, voilà, qu'il n'allait pas accepter tout et n'importe quoi, aller n'importe où.
Cool. Bah, surtout qu'en plus, à première vue, j'avais vu dans une interview il y a quelques semaines maintenant qu'il était en train de faire aussi une formation en parallèle sur du management, des trucs comme
ça. C'est ça, il en a parlé, ouais. C'est à Grenoble que ça se passe. Enfin, du coup, il fait à distance, lui. Mmh. Je ne sais plus exactement, c'est du management, c'est ça, ouais.
Et donc, bah, si le CSP lui permet d'aménager ça, parce que s'il va en Turquie ou un truc comme ça, il aura peut-être moins de temps et de facilité pour faire son après-carrière, quoi.
Effectivement, en tout cas, il doit avoir des journées bien chargées, effectivement, entre le basket au CSP, sa formation, c'est
de gamin.
Je crois qu'il est en 4 ou 5 ans. Qui est sa formation là, ouais. Il en est à la deuxième année, donc effectivement il a encore du chemin à faire, et oui, avec la famille, les deux enfants, effectivement il doit avoir des journées bien remplies, le Nicolas Lang. Et il y a un truc donc, que je voulais signaler par rapport à cette émission qui m'a fait halluciner. Il y a des internautes qui pouvaient poser des questions sur le chat au fur et à mesure de l'émission, et quelqu'un qui a demandé s'il s'était amusé des fois à faire des séries à 3 points au lancer franc, et il a répondu donc que oui, enfin pas 3 points mais surtout au lancer franc, qu'à l'époque il en faisait beaucoup, et à l'époque où il était à Levallois, son record de lancer franc dessus c'est 192, t'imagines. Alors, toi et moi qui avons joué un petit peu au basket,
oui.
Qui avons déjà du mal à en aligner 5.
Ouais.
Le mec est une machine, quoi.
Bah, puis ça se voit, hein, il tremble pas. Hein. Non, mais 192, ah ouais, non, j'avais
incroyable.
Pas eu l'info là.
Il me semble qu'il racontait qu'il s'amusait, bah, il challengeait son père quand il était ado, qu'il avait enfin réussi à le battre quand il avait genre 15 ans, un truc comme ça, il racontait. Et que c'est déjà un chiffre assez incroyable, hein, on était déjà dans plusieurs dizaines, quoi. Et puis là, à Levallois, 192 lancés. Il racontait que c'est une époque où il était blessé, donc il ne pouvait pas vraiment s'entraîner, il n'avait que ça à faire que de shooter.
Ça sert.
J'espère qu'il avait un mec pour lui envoyer le ballon sous le panier.
Ça peut être long sinon, ouais, c'est clair.
Enfin voilà, 192 lancés.
Tu te rappelles de Wojciechowski, là, qui faisait des séries à la fin des... Des entraînements, que c'est le grec qui le faisait shooter et qui lui engueulait dessus parce qu'il est content qu'il s'arrêtait à 10 et qu'il s'arrêtait. Et qu'il dit, mais pourquoi tu t'arrêtes une série, tu t'arrêtes pas à 10. Voilà.
Ah oui, on est loin des 192 de Nicolas.
Oui.
Autre chose dans les petites news, on a des nouvelles de Beaublanc. On en parlait d'ailleurs à l'émission d'avant qu'on n'avait pas de nouvelles de ce qu'allait devenir Beaublanc. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus. À part que ce ne sera pas avant 2025-2026 et les prochaines élections, a priori. Donc ça repousse encore un petit peu l'échéance. Et d'autres choses qu'on a appris, donc bah, il y a le maire qui a parlé à la mi-temps. Je ne sais pas si tu étais parti au bar à la mi-temps ou pas.
Oui.
Ouais. Voilà. Donc il a parlé un petit peu. Il a aussi parlé à la radio, mais je ne savais pas qu'il y avait un avant-match. Moi.
Alors moi, je l'ai vu qu'il y avait un avant-match et qu'il y a pas mal de gens qui y sont passés. Là. Ils étaient sur la gauche, là, au fond.
T'as pas écouté l'émission ou ce qu'ils se disaient ?
Pas du tout, non.
Mais je pense qu'il a dû dire la même chose qu'à la mi-temps. Donc ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, il y a cette espèce de projet un peu bizarre de faire deux nouvelles salles, tu sais, des salles d'entraînement, là. Une salle et une autre salle de 2500-3000 places. Donc ils vont d'abord faire ces salles-là. Et une fois que la salle
ça
de 3000 places sera
construite. On l'avait déjà dit l'année dernière, mais on a déjà la salle de hand qui est de cette jauge-là à la ZUP.
Ah, elle est plus petite, je crois, la salle de la ZUP. Elle doit faire 1000 places ou 1500, un truc comme ça.
Bah, on va refaire une deuxième salle qui est à peine plus grande pour foutre quoi et qui ne nous permet même pas de faire de l'Europe derrière.
Alors, il a expliqué que lui, ça serait pour déjà accueillir les matchs du LH et du CSP pendant les travaux de Beaublanc, parce que Beaublanc va être indisponible pendant à peu près un an.
D'accord.
Et donc, ça sera, les matchs seront dans cette salle-là. Donc une salle de 2500-3000 places, autant dire qu'il va falloir se battre pour avoir des places pour ceux qui sont pas
déjà
abonnés.
Déjà que les abonnés, ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc, les clubs utiliseront cette salle-là. Et au niveau des travaux, on n'en sait pas beaucoup plus. A priori, il va y avoir une rénovation, isolation thermique. La sono, il a parlé de la sono. Je pense qu'évidemment, ils vont redonner quelques coup de pinceau, ravalement extérieur et tout ça. Mmh. Et puis les toilettes, évidemment, parce qu'on ne va sans doute pas garder des chiottes turques dégueulasses dans une nouvelle salle. Et ouais, puis le ravalement de la façade extérieure, des choses comme ça. Alors je ne sais pas s'ils vont toucher aux deux croûtes qu'il y a à l'entrée.
Quand tu as parlé de ravalement de façade, moi j'y ai fortement pensé.
Ouais. Il a précisé une chose intéressante, c'est qu'il y aurait donc trois projets qui sont retenus, qui sont d'ailleurs retenus, je pense, qui vont être peut-être dévoilés au public ou pas prochainement. Et il y aura un jury composé de des gens des clubs, des gens des collectivités, puis des architectes, qui est un jury qui va être amené à départager ces trois projets que la mairie a retenus a priori, si j'ai bien compris. Hein. J'ai dit des bêtises avec la sono dégueulasse de Beaublanc, on n'entendait pas grand-chose.
Mais elle a déjà été changée pour l'Euroleague il y a plusieurs années déjà.
Bon, ça reste quand même.
C'est sur le speaker et le machin. Ah, le speaker a changé déjà, c'est déjà ça se fait, mais il faut changer de DJ quoi.
Donc voilà, Beaublanc, il y aura trois projets de retenue et ça, il y aura un jury donc, composé de diverses personnes qui vont choisir entre ces trois projets. Alors, je ne sais pas si ces trois projets sont rendus publics ou pas. Ça serait sympa de voir un petit peu que les gens
puissent
faire une idée. Voilà, donc on en sait un tout petit peu plus sur ce qui va devenir de Beaublanc. Au niveau capacité, ils vont essayer de l'augmenter tant qu'ils peuvent, mais je ne vois pas trop comment c'est possible.
Mmh. Surtout que si on veut garder, parce qu'on avait dit il y a quelques années, si tu creuses un peu, machin, tu as peut-être... moyen de gagner une travée supplémentaire, etc. Mais si on continue à faire jouer le LH qui ont besoin de plus de place par rapport au terrain, l'idée de creuser c'est mort puisque ça réduirait forcément la surface au sol, donc ça c'est oublié. Donc mis à part pousser les murs, je vois pas trop là.
On entendait parler un temps, tu sais, d'écraser la brasserie.
Ouais,
la brasserie allait être transférée à l'actuelle maison des sports, du coup, tu sais, le long du boulevard là. Et que du coup, peut-être si on écrasait la brasserie et qu'on faisait une vraie tribune au-dessus du hall, on pourrait peut-être gratter quelques places, mais ça irait pas plus loin que
les. Non plus.
Enfin, on verra, on va attendre a priori quelques semaines ou quelques mois, peut-être que les différents projets seront rendus publics. Puis l'autre nouvelle qui a secoué un petit peu tout le monde, c'était juste avant le match samedi, c'est ça ? Avec l'annonce de la démission de Pierre Fargeau en fin de saison.
On en parlait la dernière fois aussi.
Moi, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Ouais, Patrick disait qu'il sentait un petit peu le truc venir.
On disait que c'était un peu notre préféré.
C'est vrai. Moi, globalement,
directeur, il s'en va. Donc.
C'est vrai qu'il était. Alors, à la base, je crois qu'il était directeur administratif et financier. Après, il est passé directeur général. Et c'est vrai que quand le CSP avait décidé de communiquer, c'est souvent lui qui s'y collait. Mmh. Et ma foi, je trouvais que sur le fond et la forme, il était souvent pas mauvais. Enfin, en tout cas, il s'exprime bien, il est moins soporifique que d'autres peuvent l'être. Mais bon, là, le départ donc, annoncé de Pierre Fargeau, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais si on repart 2 ans et demi en arrière quand les nouveaux dirigeants arrivent, maintenant il n'y a plus personne. Ostrowski est parti, Bolotny est parti, Dakoury est parti, maintenant Fargeau qui s'en va. En fait,
il reste plus que la famille.
Il reste plus que Yves Martinez du directoire.
Oui, pour combien de temps ?
Alors, ce qu'on nous dit, c'est que en fait, c'était normal et prévu ainsi. En fait, si on écoute un petit peu les dires des uns et des autres, ces gens étaient là pour être là dans l'urgence et remettre le club sur les rails. Maintenant que le travail a été fait et que c'est fait...
Mettre la fille, la deuxième fille, le copain de la fille, le cousin de la fille.
Ce que nous expliquait, c'est que maintenant que ce travail d'urgence, de pompier un petit peu a été fait, que le club est reparti sur des bons rails, c'est une autre phase qui arrive et avec d'autres gens qui vont arriver. avec, il faut s'attendre donc à l'arrivée d'un nouveau directoire, une nouvelle organisation. Bon, c'est, en tout cas, c'est le discours.
Allez, Bonato.
Tu crois?
Non, j'y crois pas du tout.
J'y crois pas non plus. Bon, en tout cas, c'est le discours. Est-ce que tu crois à ce discours-là ou est-ce que tu penses qu'il y a eu des clashs encore et des choses d'Alas survienne
Peut-être.
Ouais,
on sait. Mais est-ce qu'il en avait marre de tout porter tout seul parce qu'il n'y a jamais personne avec lui du directoire
C'est vrai qu'on avait l'impression qu'il faisait beaucoup de choses. En tout cas, c'est lui qu'on voyait le plus, quoi.
Bah, déjà, bah, Dacour, il était un peu un fantôme. Madame la présidente a ses affaires à Caen, donc, bien qu'elle était là samedi. Mmh. Bon.
Patrick était content. Il avait pu...
Patrick. ouais. Donc ouais, je sais pas.
En tout cas, ça donc appelle une nouvelle période. On va dire, on peut appeler ça comme ça, Limoges SP, avec des nouveaux gens qui vont arriver. Parce que finalement, c'est pas aussi la vie du, je sais pas, d'un club. J'allais dire d'une entreprise, mais d'un club normal, il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui viennent au gré des besoins, des capacités, des compétences de chacun. Effectivement, peut-être que Pierre Fargeau avait fait son taf, ce pourquoi il était là, peut-être qu'il l'a fait et que maintenant c'est place à quelqu'un d'autre pour prendre la suite.
Bah écoute, on verra déjà la nomination du remplaçant. Parce que
remplaçants même, parce qu'il y a tout un directoire à refaire.
Ouais, ouais, ouais. Alors, il y avait aussi dans les cartons le changement de statut pour pouvoir aussi ramener un peu plus de sous. Il y avait pas mal de choses dans les cartons là, qui devaient arriver. Donc en fonction de ça, on verra si ils font tout, ils changent le statut et du coup le directoire par le fait est obligé de changer et que ils vont profiter de ça pour changer tout le monde et
c'est possible.
Et mettre cousins, sœurs, nièces et petits frères.
On aura tout de suite les procès de mauvaise intention.
Ah non, je dis rien. j'espère avoir tort. Je dis que ça. J'espère qu'avoir tort, qu'ils vont mettre les gens compétents à la bonne place. Où il faut pour que le club y grandisse et qu'on puisse retrouver pas la grandeur d'antan, parce que je pense qu'on n'aura jamais l'Euroleague et les machins, maintenant que la SVL et Monaco vont squatter les places, mais qu'on retrouve un peu de grandeur au moins dans le championnat de France et pourquoi pas en Euroleague, parce que la FF machin c'est de la merde, voilà, mais en Eurocup. Bref, j'espère avoir tort, donnez-moi tort.
Après moi, on entend dans des considérations juridiques, administratives, tout ça, je n'y connais absolument rien, je suis absolument pas compétent
pareil,
pour en parler.
Incapable de dire quoi que ce soit.
Espérons juste qu'il y aura des gens compétents qui vont arriver, qui vont faire du bon boulot pour effectivement ramener le CSP le plus haut possible. Il y a une phrase, moi, qui m'a... Parce que ça a fait un petit encart dans le journal dimanche matin, donc ça parlait du match, en dessous, il y avait un petit encart concernant donc, le départ de Pierre Fargeau, et la dernière phrase de l'article, c'est « Il faut donc s'attendre dans les prochaines semaines... à des changements administratifs, mais pas que, tu vois, genre un truc comme ça, il y aura des changements, mais pas que dans l'administratif, sous-entendu qu'il y aura aussi des changements dans le sportif. Alors, moi, j'ai pris ça comme on va peut-être se séparer d'un joueur, vu qu'on en a un de trop.
Ah, ben, pourquoi pas. Alors après, est-ce que du coup, cause à effet entre lui qui part et le joueur qui est en trop, sachant qu'il y a, il y a Black aussi qui va venir dans pas très très longtemps, il y a forcément Rikan de trop, effectivement.
Alors la question à ce jeu-là, il y a quelques semaines encore, je pense qu'on aura tous répondu
Spencer.
Maintenant, c'est plus tout à fait le cas, je pense.
Eh bien, écoute, ça fait 2-3 matchs où bon, est-ce qu'on peut dire que c'est un backup moyennasse, on va dire. Moyen plus, allez, soyons fous.
Ouais, il fait le taf, il est pas ridicule en tout cas.
Oui, alors par contre, il gâche pas l'énergie. il donne pas sa part au chien, il donne tout ce qu'il veut.
Hyper attentif.
Il a des mains... Alors, il m'a surpris sur le match. Gravelines, je sais pas si c'est... On peut dire... Est-ce que tout le monde a surperformé, j'en sais rien, mais tout le monde a bien joué en tout cas. Il m'a un peu surpris avec des bons shoots au poste. Non, c'était plutôt pas mal. Donc, bonne défense, il met 2-3 petits contres sympas. Il y a 2-3 fautes qui ne sont pas sifflées, mais tant mieux pour nous, pour une fois que c'est comme ça.
Les arbitres ont laissé jouer sur ce match.
Ah, alors c'était vachement agréable. On en parlera tout à l'heure. Oui, effectivement, on aurait tous mis Spencer la tête sur le billot il y a quelques semaines. Est-ce que maintenant c'est le cas? Je ne dirais pas ça. Moi, il y en a un autre qui me déçoit plus que ça en ce moment. C'est pareil, je sais que toi il te plaît bien, mais le PPR Harper.
C'est pas qu'il me plaît bien, c'est que je trouve que ma foi il fait le taf. Non, moi je pense effectivement si on doit se séparer d'un joueur, là du coup, autant il y a quelques semaines c'était Spencer sûr, autant maintenant, je pense qu'il y a guère que Pommier et Massimberg qui ont l'immunité. Et finalement, tu peux tous les autres.
Massimberg, il est énorme.
Moi, je pense que ça, si on doit se séparer d'un Ricain, ça peut être Spencer, mais ça peut être Pinkins.
Pinkins aussi, il
est
mauvais.
Ça peut être Blex, qui n'a plus vraiment sa place. En tout cas, il va falloir batailler pour la retrouver, vu le niveau de Massimberg. Ça peut éventuellement être Harper, mais moi, j'y crois moyen. Parce
et Blex, c'est un pur 2 ou il peut faire 1 aussi?
Il peut dépanner en 1 aussi, mais...
Il peut dépanner, c'est pas...
Il n'a jamais été très à l'aise en... D'accord, parce que... Enfin, ce qu'on a vu sur la prépa, en tout cas, il n'était pas...
Parce que Massimberg, c'est un 2-1.
Ouais, Massingberg aussi peut dépanner en un, mais ouais.
Mais des fois, c'est pas plus moche quand c'est lui que c'est Harper ou Kruzel. Hein.
Après, moi, j'ai. Je pense qu'effectivement, c'est possible que ce soit un de ces quatre-là, mais Harper,
Pinkins,
je pense
ça,
pas.
Ça fait pas mal qu'il dégage.
Ouais, ouais. Moi, c'est Pinkins que je vois bien sur le siège éjectable, si jamais on doit se séparer d'un joueur. Mm. Hein, mais encore une fois, je sais pas si c'est la dernière phrase de cet article, si c'est ça que ça sous-entendait ou pas. Hein. Je sais pas si d'autres gens ont lu l'article et qui nous écoutent et ont le même ressenti. Effectivement, moi, je pense que s'il y en a un qui est plus en danger que les autres, c'est Pinkins, à l'heure actuelle, parce qu'il me semble...
Il est en dessous.
Ouais, voilà. Puis en poste 4, on a du monde, tu vois. Enfin, on a Hugo qui peut jouer 4, on a Endoy qui est revenu, qui peut jouer 4.
Il m'a sacrément bluffé, lui. Hein.
Ouais, ouais. Enfin, à mon avis, c'est Pinkins qui est le plus en danger. Harper, j'y crois pas trop, parce que c'est quand même notre meneur titulaire.
Alors
Il fait quand même ses meilleurs passeurs de l'équipe. Il est à 12 points, 4,4, ouais, je sais pas combien de passes, 12 déval.
Moi, il me fait pas briller les yeux, hein.
Ah non, bah c'est sûr que ce n'est pas un meneur dominant comme ont la plupart des équipes. Ouais.
Je pense qu'effectivement, sur meneur, le pari de prendre un 2 qui n'a pas joué toute une année, le balarguer en poste 1 principal, en poste. Ça me paraît compliqué, sur la chance qu'en backup, tu n'as que Kruzel.
Mais après voilà, moi je trouve Pardiécule, il fait le taf. Hein, puis en plus, je trouve qu'on a
du mal, mais bon,
on a quand même des. De quoi bricoler sur ce poste-là avec Kruzel qui peut aussi prendre la main, Massimberg qui peut aussi prendre la main, Ludo. Voilà, enfin bon.
Ah, j'ai oublié lui, tiens.
On a quand même de quoi faire. Moi, honnêtement, je ne pense pas que ce soit lui le plus en danger. Mais après, ce n'est pas impossible, effectivement, que si le club envisage de. On se souvient que le club a déjà grillé 13 contrats sur les 16 possibles. Mm. On se souvient que Crawford avait dit il y a quelque temps en interview que l'objectif, c'était d'arriver en janvier en ayant toujours. 13 contrats, donc en ayant encore 3 contrats possibles. Et peut-être que le club a dans la tête de recruter en février. On sait qu'il y a des championnats qui se finissent en février.
Ouais, ouais, du chinois, de l'israélien, des trucs comme ça.
Peut-être que le club a derrière la tête de garder un peu de sous et un peu de. Mmh.
Tout pour après, renforcer l'équipe. Le moins cher à couper entre Harper et Pinkins, à mon avis, c'est Pinkins.
Ah oui, c'est sûr. Ouais, ouais.
Donc, si. sans parler de. On ne peut pas ne pas parler de sportif, mais si on doit regarder le chèque à sortir pour sortir le mail, pour regarder des sous pour en prendre un autre, bah c'est Pinkins qui dégage.
Ouais.
Enfin, je pense.
Ouais. Après, est-ce qu'il vaut mieux couper un joueur plutôt que de le garder? Est-ce qu'on a les moyens de garder un joueur sans le faire jouer? Après,
ouais, faut voir s'il vaut mieux le payer. Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est aussi un luxe d'avoir pouvoir s'adapter.
Un mec sur un tracteur.
de pouvoir s'adapter en fonction de l'adversaire, en fonction des blessures. Toi, par exemple, c'est évident que si... si Pommier se blesse, par exemple, il est évident que c'est un extérieur qui va être sur le tracteur, quoi, et qu'on va garder tous nos intérieurs. Inverse, on peut, enfin voilà. Mais effectivement, après, c'est toujours un petit peu compliqué, je pense, d'avoir un joueur sur le côté. Même si je pense que du coup là, je pense pas que ce sera toujours le même. Tu vois, par exemple, samedi, c'est Blex qui n'a pas joué. Peut-être parce qu'il y avait un doute sur le fait que Pommier.
Alors,
jouer
moi, je me suis demandé si c'était pas encore un point du physique, hein, parce que il a pas trop d'habitude, tu sais, quand il joue pas, mais il y en a quand même qui viennent s'entraîner, qui viennent faire l'échauffement, tu sais, ils viennent tourner avec les mecs. Là non,
ouais, bah peut-être qu'il y a un truc comme ça aussi.
Donc qu'est-ce qu'il lui fallait, une semaine de plus?
Parce que je veux dire, c'est que là par exemple, c'est Blex qui n'y a pas joué, mais ça veut pas dire que vendredi à Orléans, peut-être que Blex jouera, et peut-être que ce sera Pinkins qui jouera pas, par exemple.
Ouais, bah ça dépend peut-être aussi du profil des joueurs en face.
Donc, c'est aussi un luxe peut-être de pouvoir
pianoter,
tourner, mais c'est quand même difficile à gérer de laisser un mec. Donc c'est pour ça que moi cette phrase, elle m'a interpellé en fin d'article là, qu'il y aurait des changements au niveau administratif, mais pas que, qu'il fallait s'attendre à d'autres changements aussi. Je l'ai compris un peu comme ça. Je pense que ça m'étonnerait pas que ça bouge un petit peu au CSP d'ici la trêve.
Bien voir.
On verra bien. Est-ce qu'on a fini sur les petites news en point sur l'infirmerie comme d'habitude?
Ouais.
Donc on a eu la bonne nouvelle, c'est le retour de Pommier qui s'était blessé à Reims.
Ah oui.
Il est annoncé absent 2 ou 3 semaines, donc très très incertain pour le match de Gravelines.
Et donc la trêve a été suffisante, c'était une très bonne nouvelle de le voir, pas mal.
Il a bien tenu sa place, voilà. Il n'a pas l'air d'avoir souffert de sa cheville. Nico non plus, après son entorse en équipe de France. Donc,
il a fini le match avec une poche de glace sur la cheville.
Ouais, mais il a pu jouer normalement, quoi.
Ouais.
Espérons que voilà qu'il va peut-être avoir un entraînement, une semaine d'entraînement aménagée.
Oui, il faut espérer.
Pour qu'il soit à 100% à Orléans vendredi. Puis l'infirmerie, c'est complètement vidé, parce que du coup, on a récupéré tout le monde.
Si Black s'est sorti, ouais, parce que là.
Mais Black, Black, ça a fait le match amical, tu sais, il y a eu un match amical contre Pau pendant la trêve. Qu'on a gagné d'ailleurs, ouais, il a joué. Il n'a pas été très bon. Mais bon, pour un mec qui n'a pas joué depuis 2 mois.
Oui, Et
le CSP avait gagné d'ailleurs d'un point, je crois, ou de 2 points, 72-70, 72-71, voilà, un truc comme ça. Et d'ailleurs, c'est Spencer qui avait été bon, je crois.
Oui,
Et Invernizzi qui a été MVP du match.
Il est en belle croissance, la belle courbe là, de progression, là, Hugo, depuis le début de saison.
C'est que c'est plus du tout le même joueur qu'avant, en fait. Son jeu a complètement changé.
Il shoot plus trop. Il n'y a plus trop la main. Par contre, il est fort dessous.
Il fait beaucoup de choses. En défense, il est très correct. Voilà. Effectivement, on a fait le tour des petites news, on se jette sur les matchs.
Parce qu'il ne reste plus trop de temps pour les 4 matchs qui restent là.
Ouais, bon après, moi, c'est vrai qu'il y a des matchs qui commencent à remonter un petit peu. Le Valois, c'était il y a 3 semaines. Je vais être franc avec toi, j'étais plein de bonnes intentions. Je me suis dit, je vais préparer l'émission, je vais même aller revoir les matchs sur LNBTV pour.
Le fou.
Et puis en fait, j'ai rien branlé. Hein. Je vais dire les choses clairement.
Moi, j'ai sorti les stats comme d'hab, mais après, on pourra.
Donc j'ai quand même quelques trucs. Bon, le Valois, c'est un match très très compliqué. Ils sont toujours leaders du championnat. Je crois qu'ils n'ont qu'une seule défaite au compteur à l'heure où on parle. Et c'était déjà le cas quand le CSP les a affrontés il y a de ça 3 semaines maintenant. Donc un déplacement compliqué. Et moi, j'ai souvenir que le demi-match avait été assez difficile. On avait été quand même.
On perd le match là-dessus. Hein.
Sur l'intensité
parce
déjà.
On n'a pas été ridicule.
Ouais. Le départ avait été très compliqué, surclassé dans l'intensité un petit peu. Beaucoup de fautes rapides, encore une fois. Harper et Pommier avaient pris 2 fautes très vite. Mmh. Et c'est quand même souvent que ça arrive. On avait été maladroit, on avait beaucoup souffert. Après, c'est vrai qu'on s'était repris derrière, qu'on avait été plutôt solide. Et finalement, on s'était incliné de très peu, 80 à 74. Mais au final, moi, j'étais pas trop dégoûté sur ce match-là. Enfin, moins que les défaites à Nanterre Le Mans. Oui. Parce que tu as quand même le sentiment d'avoir perdu contre plus fort que toi, finalement.
Oui.
Ouais,
après, tu dis, tu prends le meilleur départ, tu te prends pas à moins 9 au premier quart.
C'est
parce qu'après, il y a les autres cartons, c'est des écarts de 3 à 4 points. Entre 2 et 4 points, les autres quarts, tu dis que tu ne prends pas moins 9 à celui-là. Après, il y a peut-être moyen de moyenner autrement. Quoi.
C'est vrai. Parce que dans l'ensemble, à part, c'est vrai qu'on ne fait pas un mauvais match globalement dans l'ensemble.
Non.
On a Harper qui passe complètement au travers sur ce match-là, et Pinkins aussi. Tandis qu'eux, ils avaient des joueurs qui étaient hyper forts, leur meneur Cumming, là, qui nous ont fait très mal. Mais dans l'ensemble, effectivement, le Valois, ils ont quand même mis pas mal de pinés, il me semble, cette saison. Et nous, on perd là-bas que de 6 points. On n'a pas été encore. J'aime pas ça, mais c'est une défaite encourageante, quoi.
Ouais, non plus.
On aurait pu s'attendre à pire que ça.
Puis bon, là, on peut pas dire qu'on s'est pris 20 points d'un joueur qu'on n'a pas su museler. Il y a 5 joueurs en face qui mettent plus de 10 points.
Ce qui nous a fait mal, c'est qu'on était très très maladroit. On est à 22% à 3 points, je crois. Et on tire quand même pas mal à 3 points.
Et eux à 42,
c'est peut-être 47. C'est peut-être moins vrai que l'année dernière, mais on dépend quand même pas mal de l'adresse extérieure. D'ailleurs, c'est un peu vrai pour tout le monde. Le basket moderne, ça tourne beaucoup sur le
foot extérieur. Moins que l'année dernière. Hein. T'as raison, parce que cette année, ça joue un peu dessous, ça va chercher un peu aux intérieurs. Il y a un peu des pics, il y a un peu des trucs.
Mais ça reste quand même compliqué de gagner un match quand tu shootes à 20% à 3 points. Moi, ce match-là, forcément déçu par la défaite. Pardon. Mais je m'attendais à pire. Et puis il y a des choses qui m'avaient plu, d'autres un peu moins. J'avais par exemple Hugo, j'avais trouvé qu'il avait un peu disparu en deuxième mi-temps, là où on aurait eu besoin de lui à la fin, tu vois, on aurait bien eu besoin, on l'a pas trop vu dans la fin du match. Il fait pas un mauvais match, hein, au-delà de ça, il y a des joueurs qui ont été très bons. Pommier, il a fait
après,
un super match.
C'est lui qui joue le plus, il joue 34 minutes sur le match. Est-ce qu'il est pas un peu cramé à la fin? Parce que bon, on dit les mecs ils font qu'un match par semaine, mais justement peut-être qu'ils ont pas assez de rythme pour se taper 34 minutes.
On n'est pas aux entraînements, on sait pas comment ça se passe. Mais si le coach Massimo est aussi intransigeant,
il doit les faire cavaler
toute la semaine à l'entraînement qu'il est en match, ça doit pas être de repos tous les jours, quoi.
Il doit les faire cavaler, ouais.
s'il doit leur gueuler dessus sans arrêt, les faire courir et tout comme des fous toute la semaine, effectivement, il y a moyen que ce soit assez énergivore comme. Un style de jeu qui est très énergivore, très agressif et tout ça, et c'est ce qui fait notre succès. Donc effectivement, il y a sans doute les joueurs qui jouent 35 minutes, il y a des chances qu'ils soient un peu cramés à la fin.
Parce que c'est, défensivement, ils s'en donnent. Hein.
C'est costaud, ouais, effectivement.
Même les gros, je veux dire, quand tu vois Pommier qui va à quasiment 8 mètres du cercle, suivre le poste 3 parce qu'ils ont fait un switch à la con, déjà pourquoi ils switchent en 3, peu importe. Mais il sort à quasiment 8 mètres pour revenir redéfendre sur son gros dessous. Il cavale. Hein.
On le voit un peu moins, ça, tu trouves pas? On a pesté souvent les saisons précédentes sur le gros pivot qui sortait à 10 mètres
de panier. Bien assez, moi, cette saison.
Moi, je trouve qu'on le voit un peu moins, quand même, ça. Enfin, en tout cas, on prend moins de panier à la con qu'on...
On en prend moins, mais il cavale, hein.
Ouais, ouais.
Est-ce que c'est parce que, justement, il cavale plus, parce que sinon, ils se font fumer, j'en sais rien, qu'on se prend moins de panier là-dessus? Mais là, Graveline, je l'ai vu, moi, il est monté à plus de 8 mètres, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu montes là-haut, gros? Et même, il y a des fois... Quand il y avait un repli défensif et que c'était un petit qui était sur un gros, ils n'arrivent pas à re-switcher pour laisser le gros reprendre sa place.
Bah, ils ont fait ça, Lang et je ne sais plus qui c'était.
Ils ont essayé à un moment.
À un moment, j'ai vu que Lang, il défendait contre un gros. Il a dit, je ne peux pas, viens, on change vite fait. Puis ils ont changé.
Ouais, mais il y a plusieurs fois où ils ont essayé de le faire, et où ça n'a pas marché. Quoi.
Graveline était tellement à la rue qu'ils n'ont pas vu le mismatch.
Ouais, bah oui.
Mais ouais, bon, sur ce match à Levallois, et qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Est-ce que tu as d'autres souvenirs qui te reviennent?
Non.
Moi, j'ai quand même l'impression qu'on a perdu contre une équipe qui n'est pas première pour rien. Ça m'a paru quand même solide.
Ça me fait chier de le dire parce que j'aime pas trop Collet quand même.
Il fait du bon taf, Collet, ouais, avec le Valois.
Non, ouais. Puis, on peut pas dire qu'il y ait volement. Niveau faute, c'est pareil. Niveau balle perdue, c'est pareil.
Ah non, non, là, il n'y a rien à dire sur l'arbitrage sur ce match-là.
Non, il y a. Franchement, là, effectivement, Boulogne est plus fort là-dessus. Ça fait un peu chier de le dire.
Il
voilà.
n'y a pas eu effectivement à dire. Effectivement, comme tu disais, sans cet entame de match qui nous plombe d'entrée, peut-être qu'on aurait
pu... C'est ça qui fait le plus mal. Et c'est rageant pour une équipe qu'on sait défensive de se prendre 24 pions et 9 points d'écart.
Parce qu'après, effectivement, on revient dans le match et on n'est pas ridicule du tout. On les joue les yeux dans les yeux. Mais à la fin, ça a tourné, la pièce est tombée du mauvais côté, mais bon... effectivement, j'ai quand même le sentiment qu'on a perdu contre plus fort que nous sur ce match-là. Au niveau stats, c'est Pommier qui a fait un gros match, 15 points, 11 rebonds, un double-double.
Double-double pour lui, ouais, meilleur éval du
25
match.
25 d'éval, ouais. Ensuite, on a Massimberg qui a fait 12 points, 6 rebonds, 17 d'éval.
Ben oui.
J'ai noté Lang aussi à 11 points.
Et puis 6 rebonds, et puis.
Puis Hugo qui a fait quand même un bon match avec 9 points, 5 rebonds, 5 passes et 18 d'éval. Bon, voilà, c'est une défaite, mais bon, on n'a pas à rougir de cette défaite-là chez le leader du championnat. Qui surprend un petit peu, hein, qui après 10 journées n'a qu'une seule défaite, donc les joueurs de Boulogne-Levallois. On a fini avec ce match, on passe au suivant.
Chartres.
Ouais, c'était la Coupe de France, effectivement. Le CSP, après avoir éliminé donc Nantes au tour précédent, recevait pour le 16e de finale de Coupe de France l'équipe de Chartres, une équipe de National 1, donc après un match très déséquilibré et facile pour Limoges. Mais attention, parce que Chartres sont quand même 3e de National 1, et ils avaient éliminé le Portel le tour d'avant. Donc une équipe de Pro A, enfin de Betclic machin, de Betclic.
Ouais, on s'en fout ça.
Donc attention quand même, prudence, même si bon, on ne s'inquiétait pas trop. Hein, et bah, ma foi, sérieux dès le début.
Pas inquiété beaucoup. Ouais, voilà.
Je pense qu'en étant sérieux dès le début et en prenant déjà 20 points d'avance dans le premier quart-temps, Limoges s'est offert un match facile.
Oui, le bus qui après de gérer.
Et archi dominé, quoi.
Tout à fait.
Ma foi, le travail était fait, bien fait. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à retenir de ce match.
Moi, encore des joueurs. Hein, quand tu vois.
Ludo qui a marqué ses premiers points sur ce match-là cette année. Qui n'avait pas marqué un seul panier depuis la reprise le mois d'août.
Ouais, ça pique. Hein. Ça piquait. Mais et on a espéré pour lui hein, pendant ce match-là. On a croisé les doigts pour que ça arrive.
Ouais, on s'envoyait des messages.
Mais oui, ça fait du bien. Non, encore une fois, là, Massenberg est à 24 points. Il fait encore quelques rebonds, il fait encore quelques passes.
C'est ce match-là, oui, il était à 19 points à la fin du premier quart-temps. C'est ce match-là ou c'est un autre, je ne sais plus.
Je ne sais plus, il finit à 24 sur le match.
Il y a un match où il était déjà à 19 points à la fin du premier quart-temps.
15 minutes, 24 points.
Ouais, Massimberg, c'est ça, 24 points, 17 déval. Il y a Cruzol qui a été bon aussi. C'est ça, 13 points, 4 passes, 17 déval. Pinkins, qui a sorti un peu son épingle du jeu sur ce match-là.
Alors lui, c'est souvent dans le garbage time. Hein.
Ouais,
là, je le dis à chaque match, mais c'est très très souvent ça quand même.
Là, c'est vrai que c'est à la fin qu'il jouait tous les ballons contre son vis-à-vis. Voilà, il fait ses 12.14 des balles.
C'est que pour faire de la stat. Hein. C'est pas pour le... J'aime pas, moi, ces joueurs. Mais bon,
c'est pour se mettre en confiance après. Bon.
Oui.
Puis, Beyers, donc comme on a dit, Ludo, hein, qui s'est fait plaisir avec un gros temps de jeu. Et puis, 11 points, 5 rebonds, 5 passes et un joli 19 des balles. Ma foi... Et puis Nicolang, hein, qui ne peut pas s'empêcher de faire le malin, comme d'habitude, qui n'a pas pu s'empêcher de mettre ses 12 points, 6 passes décisives et 13 déval quand même, pour un match comme ça. Donc voilà, le CSP qui se devait faire le travail.
Qui a fait tourner en plus, hein, il n'y a pas un joueur au-dessus de 26. C'est Cruzol qui a le plus joué, qui a joué 26 minutes.
Voilà, c'était l'occasion de relancer les
ça
joueurs.
Ça fait tourner un peu tout le monde. Ouais,
Ludo
ouais.
Notamment, qui était complètement en travers, en crise et tout ce qu'on veut. Ça fait du bien de le relancer un petit peu sur ce match-là. Il y a Spencer qui avait pas mal joué, il me semble aussi. Oui, non, effectivement, c'est le match. D'une part, la première chose, c'était de faire le travail sans se faire peur. Et ça, ça a été fait et très bien fait. Il n'y a pas eu de souci, puisque le CSP l'emporte, on ne l'a pas dit, 101 à 62. une quarantaine de points d'écart quand même, ça, ça commence à faire. Et puis voilà, on n'a jamais eu peur, 33 passes décisives sur l'ensemble du match, 134 dévales au final, c'est quand même un total assez joli. Ouais, donc voilà, le travail a été fait, bien fait, et sans se faire peur, et en faisant tourner l'effectif, en faisant jouer tout le monde, en essayant de relancer les joueurs. Bref, parfait. Et donc le CSP est qualifié pour les huitièmes de finale, et le tirage au sort, bah, c'est bientôt, c'est le 8 décembre. Alors je ne sais pas exactement combien on est là, on est le 6 ou 7, c'est ça ? Aujourd'hui,
là aujourd'hui, oui, on est le 7.
Et ben, 7. Je crois bien que le tirage au sort, c'est demain, donc on aura la réponse demain, à savoir qui le CSP va rencontrer en 8ème de finale.
Ça va être plus gros déjà.
Et ben, y a toutes les équipes de Pro A qui rentrent, les 8 premiers de Pro A rentrent dans ce tour-là, donc on n'est pas à l'abri de se taper un Villeurbanne ou un Monaco, par exemple. Voilà. Mais il y a aussi d'autres équipes encore plus prenables et des choses comme ça. Enfin, bref, on verra, ça c'est le tirage au sort, c'est les aléas. On verra
bon,
bien.
Après, mis à part le Vagnon qu'on n'aura pas, moi... Bon, ça me fait pas plus que ça. Je préfère qu'ils se concentrent sur le championnat et qu'on soit en play-off cette année, enfin.
Ouais, une saison sans Coupe d'Europe, moi ça me dérange pas qu'on fasse un petit parcours en Coupe de France.
Ouais, pour avoir un match de plus dans la semaine, mais. Ouais, bah, je préfère qu'ils assurent les play-offs. Hein.
Ça permet de garder. Oui, bah, choisir, effectivement, oui. Je préférerais qu'on aille en play-off et qu'on se qualifie en Coupe d'Europe l'année prochaine plutôt que d'aller perdre comme l'an dernier en demi-finale. Voilà. Mais après, t'es quand même content de faire un petit. Voilà, quand tu commences à arriver en quart de finale, ça devient sérieux, quoi. Tu te dis, on n'est pas loin.
Non, ouais.
Puis l'année dernière, souviens-toi, la demi-finale à Villeurbanne, franchement, on a failli la gagner, quoi. On garde deux points. Avec Lampé et Caboclo qui venaient d'arriver là. Lampé avait été fabuleux, il avait mis 25 points. Enfin, on ne sait jamais sur un malentendu. Après, tu sais, les équipes, même si tu prends des gros comme Villeurbanne ou Monaco, eux, pour le coup, qui ont l'Euroleague plus le championnat, ils peuvent dire la Coupe de France, merci bien.
Ouais, on s'en fout.
Et la prendre par-dessus la jambe, et là, il y a peut-être un coup à faire, on ne sait jamais. Enfin bref, on verra déjà qui on tire au tirage au sort demain, et on verra ce qui attend le Limoges CSP. Je crois que les matchs, après, c'est au mois de février, c'est dans un petit moment, je crois. Hein. C'est pas tout de suite. Parce que le système des quarts et des demi, c'est en plateau, tu sais, c'est sur un week-end, il me semble.
Ah
ouais, je crois que c'est en Vendée ou un truc comme ça, je suis pas sûr de ça, mais
c'est pour remplacer la Diel.
Je suis quasiment sûr que
comme ça.
Je suis quasiment sûr que c'est sur un week-end et c'est un plateau. T'as le quart le samedi et la demi le dimanche. Voilà, donc sur ce match, ce qu'on pouvait dire. Ah si, bah, on l'a pas beaucoup vu. Je crois qu'il a joué qu'au début du match. C'est Samir Mekdad, ancien Limougeot qui joue à Chartres.
Oui.
J'avais oublié ce joueur.
Il est 40 bien, il est 40 balais.
Bah, il doit plus être tout jeune, ouais, parce qu'il y a un moment qu'il jouait chez nous déjà.
Oui, bah, en Pro B, au début de Pro B. Oui.
Ouais, ouais. Donc voilà, Samir, mais on l'a pas beaucoup vu. Hein. Il venait d'arriver en plus, il était juste.
Je l'ai pas trouvé moi ridicule, du coup, pour le peu qu'on l'a vu. Ouais. Je me dis, putain, pour un vieux, il galope encore.
Bah, quand il était chez nous, il était tout jeune. Enfin, il était jeune, il avait 24 ans, je crois. Puis il s'était fait deux fois de suite les croisés. Donc il n'était pas au mieux, forcément. Effectivement, chez nous, il ne nous a pas laissé un souvenir impérissable.
On fait que ça, nous, on prend des pré-retraités ou des blessés, de toute façon.
Comme quoi, ça ne date pas d'hier. Oui. C'était déjà le cas il y a 15 ans. Donc ouais, voilà, Samir Mekdad, donc qui est un joueur de Chartres, un pigiste, je sais pas où il en est, j'ai pas trop suivi à vrai dire, ni même sa carrière non plus, mais en tout cas ouais, ça fait toujours plaisir de revoir quelques anciens.
Il a joué 6 minutes de points.
Ouais, même s'il nous a pas laissé un souvenir impérissable, Samir Mekdad. Donc voilà, c'est tout ce qu'on dit sur ce match-là. On passe à la suite avec un match qui là pour le coup était vraiment intéressant à suivre, et c'était un
Chalon.
Voilà, un déplacement à Chalon-Reims, donc Champagne Basket. C'est un endroit où on perd souvent, hein. C'est pas souvent qu'on y gagne là-bas. Une équipe avec des bons ricains, mais pas de banc. Une équipe qui avait fait un super début de saison avec 3 victoires de suite dès le début avant de s'effondrer un petit peu, puisqu'avant de nous recevoir, ils étaient à 3 ou 4 défaites de suite et ils s'étaient fait sortir en Coupe de France par une Pro B, si je dis pas de bêtises.
D'accord.
Par Saint-Quentin, je crois, avant de nous recevoir. Donc c'était le bon moment pour y aller quand même. On a une équipe complètement en crise. La victoire était obligatoire parce qu'on va pas se mentir, Reims, ça fait quand même partie des équipes qu'il faut mettre derrière nous.
Ah oui. Avec Rouen, avec Orléans la semaine prochaine.
Bon, je pense que les deux équipes avaient quand même coaché ce match-là et en se disant que c'est un match important qu'il fallait gagner. Donc une victoire obligatoire pour les deux équipes, mais nous pour prendre le bon wagon. Et à ma foi, un début de match très agressif, beaucoup de rythme, efficace des deux côtés. On a mis la main sur le match dès le début.
Bah oui.
Avec Pommier stratosphérique, 16 points dans le premier quart-temps.
Mais t'as vu comme il a été servi ?
Ouais, c'était.
Quand on le sert comme ça, il a des bonnes mains. Hein.
Je crois qu'il met les deux premiers balles du match, deux dunks, enfin deux
paniers. Oui, deux piques en avant Guingamp.
Ouais, beaucoup. Effectivement, on a marqué beaucoup de points dessous sur ce premier carton. Et on avait pris 10 points d'avance dès le début.
Après, il s'est blessé vite, on l'a plus vu. Mais
ouais, il s'est blessé au deuxième carton, je crois, c'est ça, si je dis pas de
mais
bêtises.
Il a mis.
Enfin, en tout cas, le CSP a très bien débuté ce match en prenant 10 points d'avance, 26-16 dès le premier carton. Ensuite, sur la mi-temps, le fait du match au niveau Reims, c'est qu'ils sont portés par leurs US et que leurs US, à part un, Dante ou je sais pas quoi, tous les autres sont quand même passés au travers de ce match-là. Et ça nous a bien aidé, le CSP à prendre 20 points d'avance à la mi-temps. Il y avait 51-33, je crois, ou quelque chose comme ça.
C'est ça.
Donc on était quand même très bien parti avec des US en perdition côté Champagne Basket. Le troisième carton était plus compliqué. Ils sont revenus avec le couteau entre les dents, les champenois, pour revenir. D'ailleurs, ils sont revenus à moins 12.
Ouais, mais on a tenu la baraque.
Mais on a fait le dos rond, on a bien résisté à l'adversité, on a su marquer des gros paniers en fin de possession. Harper en a marqué deux ou trois de suite. Puis Lang, on a dû en mettre un autre. Véné aussi, qui était encore chez nous à l'époque, en a mis un. Bref, on a fait le dos rond, on a résisté à l'adversité et on a repris assez vite, finalement, notre aise. Puisque à la fin du troisième, je crois qu'il y a 75 à 52, il y a genre 25 points d'avance.
Ça, ouais.
Et la fin du match, ça a été une formalité, une fin de match bien maîtrisée, avec une très bonne défense et beaucoup d'adresse côté Limoges. Et est sérieux jusqu'au bout. Moi, c'est un truc que j'aime bien cette année, c'est qu'on est sérieux jusqu'au bout. Et là, sur ce match à Reims, ça se concrétise, ou ça se voit avec le plus gros écart qu'il y a eu à la fin du match. Voilà, le plus gros écart, c'est à la fin du match. Donc le CSP a été au taquet jusqu'au bout et n'a rien lâché. Ce qu'on a pu voir aussi contre Gravelines.
Oui, tout à fait.
Pas de relâchement et le CSP qui s'impose donc 101 à 71, donc dans les grandes largeurs. Voilà, c'était un match chaud à la base. Et puis finalement, on l'a archi-dominé. Quoi.
Et ben, ça fait plaisir parce que c'est pas souvent. Enfin, ça fait longtemps en tout cas qu'on n'avait pas vu des matchs alors dominés, c'est en tout cas maîtrisés, on va dire.
Ah ouais, cette saison on a ça fait plaisir, on a Rouen, on a Reims.
Surtout que Rouen on tapait des gens qui nous ont battu nous. Ah ouais. Donc c'est pas que des rigolos. Non, ça fait plaisir de voir l'investissement, les efforts qui sont mis défensifs. Ça fait un peu du bien de voir du jeu sans ballon. Parce que ça fait combien d'années qu'on ne voyait pas un écran de retard pour libérer un shooter, que Lang puisse avoir un putain de shoot tout seul. Ça fait des années qu'on ne voyait plus d'écran, ou alors avec timidement la jambe tendue de Boutiel, même si je le regrette pour autre chose. Mais ces écrans, c'était quand même de la merde. Non, ça fait quand même du bien.
Mais je suis d'accord, ouais, parce qu'effectivement, l'intensité défensive, la grosse défense, le combat, c'est notre marque de fabrique. Mais je trouve qu'effectivement, au fil des semaines, je suis d'accord, l'animation offensive, c'est de mieux en mieux, je trouve. Il se passe des choses. Même quand on est obligé de jouer sur jeu placé, il se passe des trucs. C'est pas tout le temps statique et SOS Nico à la fin.
Oui, c'est ça.
Là, effectivement, il se passe des trucs et c'est de mieux en mieux. Moi, sur ce match, ce que j'ai bien aimé, c'est l'archi-domination au poste 5. Alors que Gany Lawal, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même un joueur un petit peu référencé en championnat de France.
Mais je l'ai pas trouvé gros.
Et tu vois, il s'est Pommier l'a baladé, Pommier se blesse, Spencer rentre, Spencer l'a baladé. Mmh. Le mec, à la fin, je crois qu'il fait quand même ses stats, hein, Lawal, mais n'empêche qu'il a passé une sale soirée quand même. Parce que tous les postes 5 Limougeaux l'ont martyrisé, quoi.
16 points, 6 rebonds, il fait, ouais.
Ouais, mais bon, voilà, il a réussi à contenir ni Pommier, ni Spencer.
Moins 22 de plus moins avec lui sur le terrain.
Ouais. Enfin, nos postes 5 se sont baladés contre lui. Et puis pareil, leur meneur qui les porte à bout de bras en général, Scotty Reynolds, et même leur arrière aussi, la Mike Henry, je crois, c'est ça. C'est les deux joueurs qui les portent d'habitude. Hein. Enfin, ils se reposent beaucoup sur leurs trois rigains.
Ouais, ils n'ont pas été terribles. Là, c'est 6 points pour eux.
Ils sont passés au travers. C'est ça, c'est le naufrage des US de Champagne Basket. C'est ça qui nous fait gagner le match par autant d'écart. Quoi. Parce que derrière, ils n'ont pas vraiment de banc pour les suppléer. Donc, quand tu as deux de tes trois joueurs majeurs qui sont pas là, c'est tout de suite compliqué. Mais enfin, nous, en tout cas, on a réussi à se rendre le match facile. On a réussi à les étouffer. Match appliqué, sérieux, maîtrisé de bout en bout. Et comme les matchs d'avant, le match d'avant, en tout cas, le travail a été fait et bien fait.
Après, moi, ce que j'aime bien là, sur les 2-3 matchs depuis la trêve, même un peu avant la trêve, c'est l'apport du banc chez nous. Parce que là, on regarde, on l'a pas dit, mais Boulogne, il y a 23 pions du banc. Là, Chalon-Reims, il y a 42 points du banc.
Après, est-ce que c'est pas aussi faussé par le fait que t'as Massimber qui sort du banc souvent ?
C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. T'as Massimber qui sort, qui est 23 et 13. Ouais.
Parce que Mickaël Jouard empêche.
Mais Pinkins en a mis 12. Spencer en a mis 12. 15, pardon. Massimber 13. C'est quand même intéressant de vous voir par rapport aux années précédentes, encore une fois, où on se disait, les joueurs du banc, les 6 confondus, ils amènent 4 points et demi. Là, t'as un vrai apport du banc, tu perds pas trop d'intensité défensive quand ça change. Ça fait du bien.
Ça fait plaisir, effectivement, de voir que tout le monde peut apporter. Et c'est vrai qu'on, nous les premiers, hein, et comme beaucoup d'observateurs, je pense qu'à la vue du recrutement initial, on se disait, oulala, ça va être juste, ça manque peut-être un peu de talent. Oui. Et puis, finalement, le coach, il arrive à insuffler, à tirer quelque chose de cette équipe, quoi, déjà.
Alors, après, on parle d'équipe entre la 5e et la 10e place, quoi. On n'a pas encore joué tous les gros, quoi. Donc,
non, bien sûr.
On a joué Boulogne, mais on verra Monaco, Villeurbanne, et puis je sais pas qui c'est le quatrième.
Oui, je sais pas, ça doit être Bourg-en-Bresse ou Strasbourg, un truc comme ça.
Et Bourg, on a perdu, mais pas beaucoup à la maison, je crois.
C'est ça. Ouais, non, effectivement, là tout, on a plusieurs joueurs capables d'apporter. Après, c'est vrai, on va pas se mentir, hein, nos plus grosses menaces, ça reste quand même Nicolas à tous les matchs et Massimberg, quoi.
Qu'on a bien fait de prolonger, dis dans celui-là.
Ouais, ouais, bonne trouvaille de Palmer,
clairement,
déjà. Hein,
parce que même pour une première, première expérience en Europe, il s'est clairement bien acclimaté au jeu.
Ouais, ouais. Belle trouvaille de Crawford Palmer qui avait une belle réactivité déjà en le signant très vite. Et puis là, pour le coup, il s'est pas trompé. Très bonne pioche pour le CSP avec un joueur qui est. Enfin, j'ai pas souvenir d'un match où il a été décevant en fait. Quoi. Il est bon tout le temps.
Clairement,
c'est comme Nicolas. Quoi.
C'est même étonnant qu'au vu des prestats du mec depuis qu'il est là, qu'il soit toujours sur le banc.
Ah, c'est pas un choix délibéré, tu penses, de Massimo
pour booster un peu.
Bah, c'est-à-dire si le début de match n'est pas hyper...
Tu commences avec Cruzol, tu le remplaces. Moi, je préférerais qu'il attaque avec machin et qu'il mette Cruzol en deux pour le reposer 3 minutes.
C'est toujours intéressant d'avoir une force de frappe sur ton banc aussi. Te dire, voilà, si le match débute bien, il n'y a pas de problème. Mais si le match, on est un peu dans la difficulté au début, que ça ne se passe pas très bien, tu sais que tu peux envoyer un mec qui est susceptible de changer la donne, de le sortir du banc. Quoi.
Bon, après, il lui laisse suffisamment, de temps et il a certainement discuté avec le mec en lui disant « Tu vas quand même avoir tes 20 minutes ou 25 minutes par match. Que tu commences ou pas, t'auras ton temps, t'auras tes stats, il n'y a pas de problème. Bon. »
Oui, je pense qu'effectivement, il est pas trop inquiet de ce côté-là, si Jim Asimberg...
Ah non, alors, moi, ça me fait presque chier quand même parce que c'est souvent notre meilleur marqueur.
C'est vrai, ouais.
Qui commence sur le banc, tu vois. Parce qu'on se dit, tu vois, il y a des matchs... On commence mal au scoring, tout ça. Ça se trouve, il y a des occasions que lui aurait pu mettre. Je sais pas. Enfin bon, c'est très certainement pensé parce que s'il le fait.
Il y a plusieurs façons de voir les choses, je pense, effectivement. Mais là, tu vois, par exemple, si on prend le dernier match contre Gravelines, c'est Cruzol qui fait un mauvais début de match, qui était dans le 5, et il le remplace par Massimberg. Et là, Massimberg a commencé à mettre 2 ou 3 points d'affilée. Et c'est parti, c'est là qu'on les a largués.
Il prend des rebonds, il prend des matchs.
Ouais, il défend, il prend des rebonds,
il fait
partout,
des interceptions. Il est hallucinant, ce joueur.
C'est un all-around player, comme on
dit. Il me plaît bien, celui-là.
Et à Reims, il avait fait son match aussi, hein, avec 13 points. Sur le match à Reims, je sais pas si on l'a dit, c'est l'adresse qui a été encore faramineuse côté CSP, avec 68% d'adresse sur ce match-là. Comment perdre un match quand tu shootes, quand t'es aussi adroit, 126 déval encore. Une grosse performance collective.
J'ai encore pas les mêmes chiffres que toi, mais on a encore pas la même source, mais c'est pas grave.
Ouais, tu les prends sur la LNB, toi.
Ouais.
Moi, je prends sur le site du CSP.
Oh, c'est pas grave.
Mais en tout cas, une grosse domination. Grosse défense, grosse adresse, grosse domination, belle performance collective du CSP qui va s'imposer à Chalon-Reims 101-71. Une victoire qui fait du bien et qui permet au CSP d'entamer une petite série, puis surtout de bien se placer dans le bon wagon avant la trêve.
On était 9e, je crois.
Ouais, c'est ça. On était. Il y a eu un espèce d'optimisme, tu vois, après les quelques beaux matchs qu'on a fait, il y a eu un espèce d'optimisme là à la trêve en disant finalement on est pas mal, on est 9e, on est qu'à un point des 8e, tu vois, même qu'à 2 points du top 5, je crois, un truc comme ça. Mais d'un autre côté, on est aussi qu'à un point du premier relégable.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc,
on est encore dans la balance à devoir s'accrocher au bon wagon, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de prendre ces matchs-là. Reims, c'est un match qui était coché qu'il fallait prendre. Gravelines, dont on va parler maintenant, c'est un match qui était coché qu'il fallait prendre aussi. Le match de vendredi à Orléans, c'est aussi un match qui est coché pour les deux équipes, je pense, et c'est un match qu'il faudrait prendre. On est encore dans cette position-là où faut pas s'emballer trop vite non plus, quoi. Je comprends qu'on soit optimiste parce qu'on on voit des beaux matchs, l'équipe carbure bien, ça défend, il y a un esprit combatif qui est très bien, on fait des choses, on gagne des matchs, on a mine de rien 3 matchs à plus de 100 points avec des écarts 30, 40, 50 points, c'est quand même assez incroyable. Mais bon, pour autant, on n'est pas encore dans la première partie de tableau clairement installé, attention quoi, ça peut vite repartir dans l'autre sens aussi, je pense.
Après, ce qui est intéressant dans ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même, on met des écarts, on met 140 points, 30 points au mec, mais c'est que la marque, elle est répartie partout.
Ouais.
C'est pas comme il y a quelques années où tu avais Reynolds ou Smith ou machin, avec des arrières de fou qui shootaient de partout et puis pas forcément de gros 5. Là, quand tu regardes l'apport des gros. Moi, c'est mes préférés, encore une fois. Pommier, 16. Comment il s'appelle ? Spencer, 15. Pinkins, 12. Bah, sur 100, déjà, ça fait 30 et quelques points à 3. Hugo, il en met que 7. Mais bon.
Il y a de l'alternance, quoi, tu veux dire. Voilà.
Ouais, mais la répartition est un peu sur tous les postes. Et c'est pas que les arrières qui shootent.
Effectivement, les extérieurs... se font plaisir, marquent beaucoup comme souvent, mais il y a de l'alternance, il y a aussi des ballons dessous et les intérieurs aussi tirent leur épingle du jeu d'un point de vue statistique, effectivement.
Ce qui me fait plaisir, c'est même quand sur système placé et que tu vois les secondes qui s'égrènent, tout ça, il y a des passes, ça joue, ça circule et ils arrivent à un moment ou à un autre à trouver soit une balle dessous, soit un shooter.
Ouais, ouais.
Et tu te dis plus, merde, ça va shooter à 12 mètres. Parce qu'on ne sait plus faire autre chose et puis que, en espérant que ça rentre.
Comme on faisait l'an dernier. Quoi.
Ouais, voilà. T'as un peu plus de sérénité. Alors, bon, bah, ça me fait toujours chier d'arriver à 23 secondes et demie avant de prendre un shoot. Mais quand tu as une belle défense en face de toi et que tu arrives quand même à faire circuler le ballon et à trouver une ouverture.
Trouver une solution.
Ouais. Et bah, tu dis, bon, il y a du jeu, il y a du vécu de l'équipe. Et ça travaille, ça doit travailler l'entraînement. Ça fait plaisir.
Ouais. Tout à fait. Et un autre match qui a fait plaisir, c'est le match qu'on a eu samedi soir.
Ouais.
On va passer dessus parce qu'on est déjà pris par le temps un petit peu. C'était le CSP qui recevait Gravelines, un match important contre une équipe juste devant nous au classement. On était 9e, ils étaient 8e, je crois, avec juste une victoire de plus que nous. Donc un concurrent direct pour les playoffs. Le CSP pouvait compter donc sur le retour de Ndoye et de Blex, mais c'est Blex qui a été choisi donc pour être laissé en tribune. Et bah, que dire, après deux minutes un petit peu compliquées, on est mené 6-0 ou 7-0.
6 ou 8, ouais.
Bah, derrière, ça a été un match à sens unique et même, j'ai envie de dire, un match parfait. Quoi. On a rarement vu ça quand même. Hein. Énorme défense pendant 40 minutes, sans relâchement. Une alternance dans le jeu, jeu rapide, jeu transition, jeu placé. Énorme adresse, hein, encore une fois. Une grosse performance collective.
Match bien, pas, on l'a dit tout à l'heure, pas haché. Ça a par joué, arbitres, ça, ouais, a ça, laissé jouer, ça a jouer. Laissé jouer. Ouais. Même en premier quart, je me suis dit, oh putain, ça siffle un peu, ça arbitrage maison, c'est tant mieux. On va pas s'en plaindre. Après, ça s'est un peu équilibré. Oh, j'ai regardé au nombre de fautes, on avait plus de fautes qu'eux pendant un moment. Alors que t'avais l'impression que bah, des fois, je dis, mais putain, il siffle pas là. Et au final, quand tu regardes, il n'y a pas vraiment nombre de fautes. Quoi.
Non, non, non. Ouais.
Et donc, ça jouait, ça a été joué, c'était physique, c'était joli.
Ouais, je ne crois pas que les Gravelinois se plaignent de l'arbitrage sur ce match-là. Hein. Enfin,
ah, les joueurs, je ne suis pas sûr.
Ah ouais.
Parce que, alors, j'ai eu encore la chance d'être en tribune. Ça discutait pas mal en disant, t'as vu, là, t'as sifflé, là, ils sont pris deux ou trois antisportifs.
Parce que c'est pas de la frustration, parce que quand tu prends 50 points, quand même, c'est plus la faute des arbitres. Quoi.
Oui, bah oui, non, oui. Mais ils se prennent deux antisportifs, une technique. Il y a des fois où ça comptera deux sur le bonhomme, il n'y a pas une faute de sifflet.
Ouais.
On a vu plus Tatillon. Après, moi, j'ai trouvé ça super beau. C'était un peu physique, ça se poussait, ça jouait, c'était chouette.
Ouais, bah,
c'était vraiment chouette à voir.
On les a laminés, quoi. Enfin, la défense, la pression défensive mise par le CSP, c'était incroyable, quoi. Ils n'ont pas vu le jour, les joueurs de Gravelines, c'était incroyable.
Le nombre d'interceptions. Et
puis alors, à ce niveau-là. Chapeau à Cruzol et Ndoye, qui défensivement ont été monstrueux sur leur vis-à-vis. C'était incroyable. Quoi.
Et mais Ndoye, il m'a impressionné dès l'entraînement.
Ouais, il était bluffant, complètement.
Je suis arrivé assez tôt, c'est pour ça que je n'ai pas écouté l'avant-match. Je suis arrivé à 7h15, un truc comme ça. Au shoot, à l'échauffement, il m'a bluffé. Ensuite, bon, à l'échauffement, bon, quand ça tourne, bon, voilà, machin. Mais il est hallucinant. Moi, je ne l'avais pas vu jouer encore.
Bah, il a faim, il est motivé. En tout cas, c'est qu'il a dit dans la presse, j'ai faim de basket, je suis motivé.
Ouais. Il m'a bluffé.
Il a dit qu'il était reconnaissant du club parce qu'il était à l'essai au moment où il s'est blessé en fin de pré-saison. Et malgré sa blessure et son absence de deux mois, le club l'a quand même signé. Donc il a dit, pour ça, je suis reconnaissant, et je vais être à bloc et tout. Et là, sur ce match-là, en tout cas...
Il a montré.
Bah ouais, parce que l'année dernière, à Chalon-sur-Saône, c'était quand même un joueur de complément. Il avait des stats un peu, tu vois, genre 4 points de moyenne, un truc comme ça. Là, je ne suis pas sûr qu'il ait souvent marqué 19 points ou je ne sais plus combien en Pro A dans sa carrière. Tu
vois. Il est propre. Hein.
Oh, bah là,
enfin, tous, de toute façon, tu me diras sur ce match-là.
Ouais.
Bon, je ne sais pas si tu as forcément vu la vidéo là, qui est super bien faite, du reste, au passage, de l'inside là, que tu nous as montré là.
Ouais.
Tu l'as forcément vu. C'est où il dit, bah, les mecs... Le coach, comment il s'appelle ?
Gigi Jackson.
Merci.
Le rock voisine du basket français. Ah oui, canadien, le beau
gosse. Oui, tout à fait. rock voisine, c'était le hockey plus. Hein. Mais, Ouais, donc, alors, déjà, moi, ça m'a gonflé de ne pas le voir brailler dans les vestiaires. J'ai tout mis lieu avec ces joueurs et machin, même à la mi-temps.
Je pense que les joueurs de Locarli n'avaient pas besoin qu'on leur enfonce un peu plus la tête.
Ah, tu peux les motiver un poil.
Ouais, moi j'ai bien aimé son discours. Allez, on repart à 0-0, on s'en fout, c'est un autre match qui commence. Voilà. Essayez de montrer un meilleur visage et voilà. Ouais, je sais pas.
C'est gentil.
Ouais, ouais, bon, bah, après c'est son tempérament, c'est pas un gueulard, hein, Jackson. Oui. C'est un peu comme un Dupraz, tu vois, c'est pas non plus.
Il était au match du reste.
Ouais, 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 il y avait pas mal de monde. Il y avait Bilba, il y avait Bonato, il y avait pas mal de gens. Ouais, ouais, moi j'ai bien aimé. Enfin, le. Ouais, ça m'a que dire sur ce match-là, on a tout aimé quoi. Oui. Moi j'ai bien aimé la défense, effectivement. Lang, c'est un métronome. Il y a encore Massimberg qui a été fabuleux. Bon, je pense qu'effectivement. Ça...
C'est notre meilleur rebondeur.
Ouais, ouais, il est incroyable ce match-là. Enfin, tu regardes les stats, la performance collective, 27 passes décisives, 137 d'éval au total. Tu shoots à 64% à 2 points, 54% à 3 points. L'évaluation, c'est une boucherie, 137-28, un truc comme ça. Là, les rebonds, 32-23. Enfin bon, bref, effectivement, t'as 5 ou 6 joueurs à plus de 10 points, bon, et tous avec des stats. Bon, voilà, c'était un match de rêve, hein, c'est une victoire 148. Oui. T'imagines, tu marques plus de 2 fois le nombre de points de ton adversaire. Quoi.
L'écart est supérieur au nombre de points marqués par les autres.
C'est incroyable. Deux équipes de même niveau, quoi, hein, censées concurrents directs pour les playoffs. Enfin bon, bref, voilà, un match de rêve comme on n'aura pas beaucoup.
Après, eux, ils ont déjoué, nous, on a été très bons.
On a fait ce qu'il fallait pour les faire déjouer.
Oui.
Sans doute en manque de rythme après la trêve, Graveline, voilà, ils n'avaient pas fait de match amicaux, apparemment, eux, bon. Voilà, mais bon, ça n'explique pas quand même les 50 points d'écart, c'était un match juste hallucinant, où bah, tous les limogeaux ont été bons, hein, quasiment, on va pas faire l'étalage de toutes les stats.
Non, après moi j'ai eu une petite frayeur encore à la fin du match, donc Nico n'est pas rentré quasiment du quatrième, ouais, hein, il a joué 2-3 minutes dans le 4 et après on ne l'a plus vu. Au rond central, quand ils sont venus saluer les joueurs, moi je l'ai vu... Il avait le pied droit ou gauche dans une poche de glace à la place de la chaussure.
Ouais.
Bon, après, ça peut être juste pour peut-être soulager et machin. Oui, mais voilà, ouais. J'espère que ça n'a pas trop endommagé.
Vu que c'était plié et replié, je pense qu'ils n'ont pas pris de risque à le faire jouer plus que de besoin. On va passer vite fait sur le match d'Orléans. On va en parler 30 secondes avant de rendre l'antenne, puisqu'il y a une émission après nous. Donc, déplacement. J'ai 57 moi là, l'horloge.
J'ai 55 là moi.
Ah ouais, mais c'est cette heure-là qui compte. Ah, okay. Donc, déplacement à Orléans vendredi soir. Déplacement compliqué. Orléans qui reste sur 2 victoires de suite contre Dijon et Le Mans. Donc une équipe qui va mieux. Une équipe dont il faut se méfier parce que malgré un début de saison compliqué, ils ont quand même de sacrés joueurs. Ils ont un axe Warren Endoy qui est assez impressionnant. Tu rajoutes à côté de ça Ulmer et puis Strawberry qui viennent de recruter, qui va jouer son premier match contre nous. Mutualé qui est un des meilleurs défenseurs de la division. Bref, ils ont de quoi nous emmerder, c'est clair.
Tu crois que ça va être un match très défensif, petit score des deux,
je sais pas.
Un 55-60 et des brouettes comme on voyait il y a 20 ans.
Mais nous, par contre, c'est une clé du match. Si on défend pas dur, Warren va nous faire la chanson. Quoi. Parce que j'ai regardé le match, c'était Orléans-Le Mans. On était à la moitié du deuxième quart-temps. Ça jouait depuis genre 13 ou 14 minutes. Et côté Orléans, il n'y avait que 2 marqueurs. Tu te rends compte, ils avaient genre marqué 25 points et les 2 marqueurs c'était Warren Endoy, 25 points à 2 quoi. Donc ils sont quand même un petit peu dépendants de ces deux-là, je pense, et il y a des choses à faire défensivement pour les emmerder.
Il faut espérer qu'on y arrive surtout parce que quand il y a des mecs comme ça qui prennent feu ou qui sont ultra confiants, ça va shooter n'importe quoi, en fadeaway à 8 mètres, ça va rentrer.
Alors on peut espérer que Warren, qui a fait une des meilleures performances de l'année là, au dernier match,
peut-être
il va pas le faire 2 fois d'affilée.
espérons-le.
Bon, c'est certainement un match qui est coché des deux côtés, hein, des deux équipes. Mais bon,
ils sont combien Orléans là?
Ils sont derrière nous, ils étaient à la ramasse, mais là ils ont gagné 2 matchs de suite, donc ils sont un peu mieux, je pense.
D'accord.
Ils doivent être, je sais pas, 12e, un truc comme ça. Ils doivent avoir une victoire ou deux de retard sur nous. Nous, ça serait bien de le prendre pour se mettre dans le bon wagon, puis ça serait au moins ça nous permettrait d'aller à Monaco sans pression, parce que derrière on va
Monaco. Après tu pourrais une branler, tant pis.
Voilà, si tu gagnes les matchs que tu dois gagner contre Reims, contre Gravelines, contre Orléans, tu peux aller perdre à Monaco, c'est pas bien grave.
Sachant qu'on visera pas le top 3, je pense, cette année.
Non, ouais, ça va être compliqué. Mais après, si on joue comme on a joué là,
on verra. On peut rien dire.
Parce que à chaque fois, on met des branlées, on dit ouais, l'adversaire était faible, mais si l'adversaire, c'est le CSP qui a rendu l'adversaire faible en faisant ce qu'il fallait. Et pour l'instant, parfois, le seul gros qu'on a joué, c'est le Valois, et on était loin d'être ridicule. Donc on verra après contre Monaco ce qu'il en est. Bon, j'ai 59 et 30 secondes, il faut qu'on rende l'antenne en catastrophe.
Okay.
À dans 15 jours,
donc,
en espérant qu'il y a encore une victoire à Orléans et à Monaco, on verra. Je vais essayer de mettre le bon truc. Où est-ce que c'est? Ça doit être ça.
Arrêtez.
Et voilà. À dans 15 jours, salut.